Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Anne Lefebvre, c'est elle qui a accepté de nous donner ses notes, ce jeudi 12 décembre 2024. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai le grand plaisir d'animer. Je vais aussi vous dire combien je suis enchanté des témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de cette émission Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous allez apprécier de recevoir les notes que Anne Lefebvre va aujourd'hui nous donner, que dis-je, nous offrir. Bonjour Anne Lefebvre.
Bonjour Stéphane.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous qui nous venez de la région parisienne de Versailles, pour être plus précis, je crois, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC et d'avoir osé descendre jusqu'à nous en Charente, en Angoulême et dans les studios de la station. Bonjour Jean-Marc, merci à toi aussi pour la technique que tu sais apporter et pour le soutien que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc, aujourd'hui, c'est Anne Lefebvre qui se prête au jeu. C'est elle qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrée dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales, et le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage et du besoin d'un partage musical et humain. Anne Lefebvre va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Auditrice, auditeur, le mot entourage aujourd'hui va prendre un sens particulier parce que si c'est Anne Lefebvre qui est notre invitée, c'est bien aussi de son entourage qu'il s'agit et de toute la famille Lefebvre, la célèbre désormais famille Lefebvre dont il va être question dans cette émission. Donnez-nous vos notes. Anne va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. C'est elle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Anne, vous êtes prête?
Je suis prête.
Alors, Anne Lefebvre, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Et puisque c'est la dernière émission avant Noël, on va commencer par un cadeau. Merci Anne de nous l'avoir fait, ce cadeau, de nous l'avoir apporté, de me l'avoir apporté. C'est très égoïste que je le dis. Mais j'ai entre les mains ou devant moi le dernier CD de la famille Lefebvre. Comment il s'appelle ce CD? Il a un titre?
La famille Lefebvre chante Noël, tout simplement.
Ben, tout simplement, mais tout complètement, vais-je dire, c'est tout à fait d'actualité. Alors donc, la famille Lefebvre chante Noël, ça veut dire que c'est un recueil de chants de Noël?
C'est un album de chants de Noël.
Traditionnel?
Traditionnel, musique savante, populaire, différentes harmonisations de tout temps. C'est assez éclectique, on va dire.
Et de différents pays, différentes provenances?
Et de différents pays, français, anglais, nord, norvégien, en langue anglaise, latine et française, voilà.
Ouais. Et on pourrait peut-être écouter tout simplement
le premier titre.
Le premier titre qui s'appelle I Saw Three Ships, c'est ça?
I Saw Three Ships.
C'est-à-dire j'ai vu trois bateaux.
Le jour de Noël, Christmas Day.
Voilà, si on prend le titre complet. C'est un arrangement d'un musicien anglais qui vit toujours, qui s'appelle John Wouter, qui a écrit beaucoup de choses et qui fait beaucoup d'arrangements que moi, j'aime beaucoup. Alors, Anne, ça tombe bien, parce que dès le début, on a un point commun autour de John Wouter et de ce qu'il fait. On a la famille Lefebvre au grand complet qui nous chante. Vous nous redites le titre?
I Saw Three Ships.
Alors, c'est un air traditionnel anglais du XVIIe siècle qui était populaire, surtout dans une région d'Angleterre que j'apprécie particulièrement, c'est la Cornouaille. Alors salut aux amis anglais, c'est ma seconde famille, comme je dis. I Saw Three Ships, c'est le CD de la famille Lefebvre, le premier titre en tout cas. Merci Anne, merci à toute la famille de ce magnifique cadeau. Et c'est, tiens, je vais dire une avant-première quelque part, parce que c'est la première fois, en tout cas sur les ondes de RDC, que cet extrait est diffusé. Faire un CD, qu'est-ce que ça veut dire en 2024? Comment, alors, en quelques mots, hein, comment ça se passe?
Eh ben déjà, on décide qu'on veut enregistrer, mettre en boîte quelques chants.
Alors
qu'on,
on, c'est qu'on aime. Collectif.
Notre famille, en fait, notre famille, puisqu'on est un cœur de famille. Mmh. On décide qu'on veut, qu'on voudrait mettre en boîte des chants de Noël.
Enfin, mettre en boîte, là, j'aime bien le terme.
Mettre en boîte, voilà, des chants. Et donc après, on décide le répertoire. Et là, on avait déjà fait un CD il y a 3 ans sur un répertoire assez diversifié. Et là, on s'était dit, on va se spécialiser sur la période de Noël, puisque ce sont des programmes que l'on fait généralement en concert. Et donc là, après, on décide un programme et on programme l'enregistrement, qui n'est pas une mince affaire.
Faut trouver un lieu, j'imagine.
Alors du coup, on a toujours des lieux, des contacts. Donc on prend contact avec des responsables. Enfin voilà, des lieux spécifiques. Donc là, on est allé tourner chanter dans une abbaye en Normandie.
C'est loin de vos bases, non?
Oh, c'est un petit à 300 km, 250. Oui, oh. Non, ça va, c'est pas très très loin. Mais surtout, c'était très important de s'éloigner de notre camp de base, pour justement être bien concentré sur ce qu'on fait. Donc une fois qu'on a prévu cet enregistrement, eh ben, il faut rassembler les musiciens, puisque vous avez entendu qu'il y avait des musiciens.
Donc il y a des cordes.
Il y a des cordes, là il y avait des cordes de la flûte sur quelques titres, et puis rassembler les techniciens, donc l'ingé son, le directeur artistique.
Alors l'ingé son, c'est l'ingénieur du son, je traduis parce qu'on n'est pas forcément habitué à ce raccourci, l'ingé son.
Voilà, qui gère toute la prise de son, les micros, le mixage et tout ça. Et voilà, ça c'est pour l'enregistrement. Puis après, il y a tout.
Alors ça se passe en continu ou c'est plusieurs phases d'enregistrement?
Alors là, on a pris une semaine d'enregistrement fin juin, début juillet. On fait environ 2 titres, 4 titres par jour.
2 à 4 titres par jour.
Voilà,
quand même.
Non, 3 à 4 titres par jour en général. C'est assez long en fait quand même. Au milieu de cet enregistrement, on a tourné des clips, puisqu'on a des clips qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et voilà, on est rentré, on était très fatigués.
Oui. Il n'y a pas de récrimination.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même des moments difficiles, mais c'est des moments où on travaille dur, mais on est heureux à la fin
de ce qu'on entend sur le CD, de ce qu'on voit sur les clips, etc.
On sait toujours que ce qui est difficile est le plus fructueux, en fait. On n'arrive jamais à rien sans dire son travail. Donc,
évidemment. Donc, quand on voit la famille Lefebvre ou d'autres sur scène, on a l'impression que tout est facile, tout cool. En fait, maintenant, c'est un énorme travail en amont, bien sûr, de formation individuelle, je veux dire, personnelle, et puis de rassembler tous les talents. Et je crois que tous les talents sont présents dans la famille Lefebvre. Voilà, c'est dit.
Merci.
Anne, merci de ce cadeau. Alors, il y a aussi dans ce CD, pardon, une jaquette. Hein, et puis, il y a des explications. Il y a un Noël chez les Lefebvre. Ça veut dire que c'est vous expliquer comment ça se passe, le Noël en famille chez vous.
On s'est dit qu'on avait envie de raconter un peu ce qui se passait pour Noël chez nous, ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait, comment on le vivait, comme une famille lambda, avec les cadeaux, la recherche des cadeaux.
Alors vous êtes des cadeaux du soir ou des cadeaux du matin, vous?
Ça, on la raconte dans notre CD.
Ah ben justement. Allez, en avant-première.
En avant-première, on est les cadeaux du soir.
Ah.
Voilà, en fait, nous, on commence par... Bon, évidemment, on a toute la recherche des cadeaux, enfin voilà, mais on vit aussi Noël à travers notre vie de foi, en fait, de la recherche du Christ. Et donc, on sait que Noël, pour nous, c'est la naissance de Jésus, on le célèbre.
Voilà, donc c'est les deux qui sont liés, c'est bien.
Et bien, ça va ensemble.
Et je crois qu'il y a un moment, il y a Portrait de famille. Alors ça, c'est l'histoire des Lefebvre, si je peux dire, musicalement en tout cas, ou peut-être pas.
Portrait de famille, oui, c'est un peu notre... ouais, c'est un peu une biographie, entre guillemets, si on peut dire.
D'accord, ouais. Y compris la biographie musicale, alors c'est ça?
Oui, en quelque sorte.
Et je vois que ça va jusqu'à La France a un incroyable talent. Tiens, c'est une émission de télévision, ça, c'est ça?
C'est une émission de télévision, sur M6.
Et vous avez participé, que dis-je? Vous avez gagné, vous avez été lauréat.
Oui, exactement. Quand en même. 2020.
En 2020, déjà. Mais bon, ça a donné un nouveau départ ou pas?
Oui, ça a pas relancé parce que ça a lancé tout simplement. Enfin, ça a amplifié, multiplié entre guillemets notre cœur de famille en fait.
Alors je lis pour la dernière chose, c'est la dédicace. Joyeux, c'est Anne Lefebvre qui l'a écrite il y a quelques minutes. Joyeux Noël avec la famille Lefebvre. Ce CD retrace notre vision de Noël, heureux, simple et musical, surtout. C'est ça?
C'est ça.
Heureuse, simple et musicale, j'aime beaucoup les termes. C'est signé Anne. Alors j'ai passé un marché avec Anne. Un jour ou l'autre, je retrouverai la famille Lefebvre en concert et j'aurai non seulement la dédicace de Anne, alliée déjà, mais j'irai demander celle de tous les autres interprètes.
On n'est pas avare de dédicaces, on en fait beaucoup et les gens sont heureux de ça, donc on leur donne cette joie-là.
Merci beaucoup Anne, merci beaucoup à tous les vôtres, à toute la famille, et puis on reparlera évidemment de la famille Lefebvre tout au long de cette émission. Le principe de l'émission, Anne, c'est aussi faire partager aux auditeurs ce que vous aimez, ce qui a contribué à faire la personne et la musicienne, la chanteuse que vous êtes. Et vous avez retenu un extrait d'un opéra de Claudio Monteverdi qui s'appelle Le Sacre ou le couronnement de Poppée. Et l'extrait en particulier, c'est Pur ti miro. Alors pourquoi vous avez choisi ça?
Parce que cet air, je l'aime beaucoup. C'est un beau duo. D'amour en fait, qui rassemble une soprano et un contre-ténor. Et c'est un chant qu'on a pu chanter en famille, qu'on peut avoir l'occasion de faire et que je trouve particulièrement beau. Et c'est vraiment la clôture, cet opéra de Monteverdi qu'on apprécie particulièrement. Et voilà.
Alors Monteverdi, il est souvent appelé le père de l'opéra parce que avec. Orphée. Monteverdi a sans doute signé le premier opéra de l'histoire de la musique, de l'histoire tout court finalement. Et puis de sa longue carrière pour l'opéra, finalement, il ne nous reste que trois œuvres, vraiment, c'est-à-dire Orphée, Le retour d'Ulysse dans sa patrie et Le couronnement de Poppée. Et on va entendre un extrait qui s'appelle, redites-moi.
Pur ti miro.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monteverdi se montre, je veux dire, très étonnant dans cette ultime pièce lyrique. Et encore plus que dans toutes ses compositions précédentes, parce que là, dans cet opéra, il y a l'intrigue, c'est l'histoire antique, c'est la conquête du pouvoir par Poppée, c'est-à-dire la maîtresse de l'empereur romain Néron, qui est ou n'est pas celui dont on pense qu'il a incendié Rome, etc. Bon, ça, c'est les historiens qui nous le diront précisément sûrement un jour. Et puis Poppée, elle renonce à rien pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire avoir le pouvoir. Et puis il y a le livret, les paroles, très théâtrales, dramatiques, et bien sûr, il y a la musique. La musique de Monteverdi, moi je la qualifie de somptueuse dans cet opéra, de bout en bout, et elle touche au cœur depuis 4 siècles et plus. Alors, pur ti miro, ça veut dire je te regarde, je me rapproche de toi pour te voir, je te vois.
C'est un duo d'amour.
Voilà, c'est un duo d'amour. Alors deux voix aiguës, vous avez dit une soprano, voix de femme, un contre-ténor. Et là, c'est un contre-ténor célèbre qu'on va entendre. C'est Philippe Jaroussky qui nous donne sa version de Pur ti miro avec Danielle Deniese, qui est une soprano australienne. C'est maintenant. Pur ti miro, Alors Anne, un clin d'œil à votre ville de résidence, parce que le couronnement de Poppé, nous venons d'entendre un extrait, hein, Pontemiero, a récemment connu un triomphe alors qu'il a été donné à l'Opéra Royal de Versailles. Vous nous avez dit que vous venez de la région de Versailles, ou de Versailles même. C'était en version de concert, et il se dit, et moi le premier, que tout le monde attend la version scénique, c'est-à-dire la mise en scène complète, et pourquoi pas avec la famille Lefebvre sur scène, là. Ça serait bien. Il faut savoir que, avant d'avoir été oublié pendant très longtemps, Monteverdi a été une véritable star en son temps. C'était vraiment l'égal de certains chanteurs ou certaines chanteuses de variété d'aujourd'hui. Et c'est peut-être parce qu'il ne se contentait pas de composer, si je peux dire. Il explorait, il s'inspirait de ses prédécesseurs tout en apportant une touche de modernité, de renouveau dans sa musique. De renouveau dans la musique qui évolue, la musique qui avance. Vous pensez, Anne, que la composition musicale évolue encore aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est figée ?
Ah non, elle évolue complètement.
Et comment on peut faire évoluer ?
Elle évolue en fait, parce aujourd'hui on se réapproprie de la musique ancienne, la musique tonale, on passe aussi de la musique atonale, la musique contemporaine. Donc en fait, elle est très 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 variée, la musique d'aujourd'hui.
À la fois sur la mélodie, sur les harmonies,
sur les harmonies, beaucoup, qui sont des harmonies qui sont complètement dissonantes. Et puis à côté, on a des choses qui sont complètement consonantes. Disons que c'est assez varié. On n'a plus, comme avant, le style baroque, le style classique, le style romantique.
C'est le croisement, c'est la rencontre.
On est passé de quelque chose de style qui se mélange complètement d'un compositeur à l'autre.
Abat les frontières, dépassons les frontières d'espace et de temps, c'est ça ?
Bah, si on veut, oui, en fait, ouais. C'est ça.
Et ouais. C'est un peu une devise de la famille Lefebvre ? Allez, piocher, pardon du terme, un peu partout.
Alors nous, on ne fait pas de musique contemporaine.
Ah, bah si,
contemporaine, oui, mais contemporaine dans le style de musique complètement dissonante. Moi, je dis qu'on fait de la musique contemporaine d'auteurs d'aujourd'hui, mais qui font de la musique qui sonne harmoniquement consonant.
D'accord. Ce qu'on peut dire. Le deuxième compositeur que vous nous présentez ce matin, enfin en tout cas l'extrait d'une de ses œuvres, c'est Gabriel Fauré. Mmh. Et quoi de Gabriel Fauré ?
Alors c'est le In Paradisum, extrait du Requiem de Fauré, de son Requiem.
Ouais.
C'est la dernière pièce du Requiem qui nous emmène au paradis, d'où le titre In Paradisum.
Voilà. On peut dire que plusieurs compositeurs ont écrit un Requiem. Hein. Berlioz, par exemple, qui avait cherché, je crois, l'universel, le gigantesque, qui avait terminé son long Requiem, parce qu'il dure quand même 1h15, hein, celui de Berlioz, 35 minutes, celui de Fauré. Il avait fini, lui, avec un Agnus Dei. Mozart n'avait pas le temps de finir, donc c'est un de ses élèves qui avait terminé avec un Lux Aeterna, ça y est, j'y arrive. Et Verdi, lui, il finit sur un Liberame, voilà. Fauré, il a opté pour une ancienne ou une antienne, on peut dire les deux, c'est-à-dire un air traditionnellement chanté après la messe des défunts, lorsque le cortège se rend au cimetière, et In Paradisum, c'est le dernier chemin, paraît comme quelque chose de consolateur, tiens, je vais dire, quelque chose qui parachève un sentiment de paix. Et ce sentiment de paix, je trouve en tout cas, peut-être vous aussi, Anne, il est présent tout au long du Requiem de Fauré.
Cette Fauré a composé son Requiem pour la liturgie, puisqu'il faisait beaucoup d'enterrements dans l'église où il résidait. Donc il a décidé d'écrire un Requiem qui pourrait accompagner les parents des défunts.
Ouais.
Dans la paix, donc elle est destinée vraiment pour la liturgie, d'où ce ton calme et serein de ce Requiem.
Et en 1924, les funérailles nationales sont organisées pour Fauré, et on joue, devinez quoi, le Requiem à la Madeleine. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il était organiste, et il avait été successeur de Camille Saint-Saëns. Le Requiem a charmé beaucoup, beaucoup de personnes, spécialistes de la musique ou pas, a charmé des générations, et je vais oser dire que ça continue de le faire, même si beaucoup de compositions de ce musicien d'envergure sont connues, sont célèbres, on a toujours un penchant, je trouve, pour son Requiem. Savez-vous, Anne, qu'il paraît que Fauré n'était probablement pas croyant. Et je l'ai dit, il était organiste à la Madeleine, donc, et vous l'avez vous relaté, il a bien sûr été amené à assurer nombre de services, comme on dit, dont des enterrements. Et c'est peut-être là que l'idée lui est venue, vous le disiez, de composer un Requiem. Peut-être ça a été renforcé au moment où il a perdu ses parents. Il se dit aussi que tout ça conjugué a abouti à la composition d'un Requiem. Pourtant, on dit souvent qu'un Requiem pour un musicien, il compose un Requiem pour lui-même, pour sa mort.
Ben non, lui c'était pour les autres, justement.
Peut-être pour lui aussi involontairement, puisque ça a été donné le jour de ses funérailles nationales. Alors de Gabriel Fauré, extrait du Requiem, voici In Paradisum ou In Paradisum, ça c'est la guerre entre les anciens et les modernes. Tout à l'heure, je disais, Anne, que Gabriel Fauré était... l'année du décès, c'est 1924, oui. Et nous sommes encore en 2024, c'est-à-dire qu'on a célébré...
les 100 ans de sa mort. Et à cette occasion, un grand anniversaire, cette année.
Ouais, à cette occasion, nombre de concerts ont été donnés, instrumentaux ou vocaux. Il y a un petit clin d'œil, un ensemble choral que je connais un petit peu, qui s'appelle Au cœur des quais, et qui a donné, je trouve, d'une fort belle manière, le célèbre cantique de Jean Racine. Oui. Dans la présentation de ce que nous venons d'entendre, grâce à vous, je lis, Anne, que au chant, on a Gabriel Lefebvre, Anne Lefebvre, Gaël Lefebvre, Blanche Lefebvre, Clément Lefebvre, Emmanuel Lefebvre, Colombe Lefebvre, Raphaël Lefebvre. Dites, ça fait beaucoup de Lefebvre. Est-ce que ça serait toute la famille Lefebvre?
C'est toute ma famille. Voilà, ah, on chante.
Donc c'est vous qui venez de chanter, si je peux dire.
C'est enfin, nous en tout cas, qui chantons. In Paradisum était présent sur notre ancien album. Ah, donc voilà, c'est un chant qu'on avait choisi. C'est un chant qu'on avait choisi parce qu'on l'aime beaucoup. Mmh. Il a beaucoup de sens et on l'avait mis dans notre album précédent.
Et puis il y a du violon, il y a Jean-Philippe Kuzma et Chantal Dury, il y a à l'alto Clara Lefebvre, Pierrot, c'est peut-être quelqu'un qui est...
Non, c'est pas de la famille.
Et le violoncelle Paul-Marie Kuzma, à la harpe Clara Isambert, à l'orgue positif Gaëtan Jarry. Donc plusieurs chanteurs portent le même nom. Bien sûr, parce que c'est la famille Lefebvre. Et je crois qu'ils sont 8, c'est ça ? Mm-hmm. Pouvez-vous nous dire un petit mot de qui ils sont ? Ils ne sont pas tous là parce qu'ils n'ont pas pu venir, mais une prochaine émission, pourquoi pas ? En tout cas, qui sont-ils, s'il vous plaît, Anne, dites-nous.
Alors, les 8 personnes de cette famille Lefebvre, donc il y a mon mari et moi, Gabriel, et Anne, moi, et nos 6 enfants, Gaël, Blanche, Clément, Emmanuel, Colombe et Raphaël.
Là, c'est l'ordre chronologique, si je voilà. peux dire, l'ordre d'âge.
Voilà, ouais. L'ordre d'arrivée dans la famille.
L'apparition à l'écran.
Voilà, ouais, voilà.
Et donc, ils sont tous chanteurs ?
Ils sont tous musiciens. Mmh. Les 2 aînés sont chanteurs professionnels. Mmh. Vraiment, ils vivent de ça. Enfin, voilà.
Ils ont une voix ? Ils sont spécialisés
alors,
dans une
Gaël,
voix ?
Gaël, notre aîné, donc, est contre-ténor. C'est-à-dire, il chante en voix de tête.
On a entendu tout à l'heure un contre-ténor. Hein,
voilà, Philippe Jarouski, et il chante ouais. aussi en voix de ténor. Mais pour les besoins de la famille, il chante aussi en voix de baryton basse.
Voilà.
Donc, il a une tessiture, un ambitus vocal assez énorme. Ce qui
alors, l'ambitus, c'est de sa note la plus grave à la note la plus aiguë. Hein, voilà. C'est ça.
Qui fait que c'est assez agréable de l'avoir, c'est assez précieux de pouvoir passer d'une voix à l'autre assez facilement.
Et vous avez, vous avez des instrumentistes aussi parmi ces chanteurs ?
Alors on a Colombe qui est violoniste.
Qui a donné une audition il n'y a pas longtemps.
Hier soir, elle a donné une petite audition à son conservatoire.
Et ça s'est bien passé ?
Super, voilà, elle était très contente, moi aussi.
Alors c'est parfait. Et puis donc, les autres aussi ?
Alors Blanche est chanteuse professionnelle soprano. Elle a fait aussi un peu de violon. Quand elle a commencé par le violon, mais maintenant elle est plus spécialisée dans le chant. Et après on a Clément, lui il fait du chant. Il n'a pas d'instrument spécifique. On avait après Emmanuel qui est chanteur aussi, mais qui a fait de la flûte à bec, qui a commencé la musique avec la flûte à bec.
Il y a de quoi faire vraiment une diversité d'œuvres. Hein,
voilà, après on a Colombe, donc, qui est violoniste, comme je dis, et Raphaël, le petit dernier, qui s'est mis à l'orgue maintenant. Ah. Voilà, et après, à ce côté de ça, ils sont tous inscrits dans une maîtrise à Versailles, ils font du chant. Donc c'est là où ils ont été formés, en fait.
Qu'est-ce qui dirige la maîtrise?
C'est Jean-François Frémont.
On le salue. Et on pourrait même lui dire qu'il pourrait un jour, pourquoi pas, être invité d'une émission à venir. Vous pourrez lui dire, écoutez, s'il vous plaît, lui transmettre. Pas. Merci, en tout cas, quelle richesse, parce que c'est la voix, certes, mais c'est pas que la voix. Et vous dites, ce sont 8 musiciens, les membres de la famille Lafèvre, vous avez raison. On n'est pas, je crois, chanteur ou instrumentiste, on est musicien. Et puis la voix est un instrument aussi, quelque part.
Ah bah, complètement.
Et oui, complètement, on chante... De ses cheveux jusqu'à ses pieds, jusqu'à la plante des pieds, évidemment, et pas seulement avec la tête ou l'appareil buccal ou vocal, évidemment.
La voix, c'est le corps. Oui.
Ouais, et le corps, c'est la voix. J'aime bien dans les deux sens. Ouais. Un autre compositeur que vous appréciez, je crois, c'est Jean-Sébastien Bach.
Oui.
Et là, on va entendre un extrait d'une passion selon saint Matthieu. Je vais tenter la prononciation en allemand, « Erba Madisch mein Gott ». Et qu'est-ce que c'est? C'est une description des larmes de Saint-Pierre après le reniement, c'est ça?
C'est un air qui est chanté par un contre-ténor après que Saint-Pierre ait renié le Christ 3 fois, et donc Erba Madisch, les larmes de Saint-Pierre, d'où l'air particulièrement somptueux et langoureux, entre guillemets, et beau, en fait. Il exprime toute l'angoisse et la tristesse de cet homme qui regrette.
Et ici, on va voir, je crois, la version donnée par Delphine Galou. Mm. Et je crois que vous avez rencontré cette chanteuse.
Qu'on a vu en direct, qu'on a vu chanter au Festival de Beaune. C'était en 2012, je crois.
Il y a quelques temps déjà,
mais qu'on se souvient toujours de ces moments incroyables de concerts avec des artistes.
Elle chantait une œuvre de Vivaldi, je crois, à l'époque.
Hein, Rolando Fogliato,
dirigée par Jean-Christophe Spinozzi, dont on pourra reparler tout à l'heure, avec d'autres artistes talentueux autour de lui. Il s'agit d'un oratorio, cette passion selon saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach. Alors l'œuvre, ça raconte les derniers moments du Christ. Hein. Et elle a été remaniée 3 fois, cette composition. Et la troisième version, c'est la définitive, elle a été créée, c'est-à-dire jouée pour la première fois en 1736.
Alors juste pour la petite histoire, j'ai choisi de proposer du Bach, parce que nous chantons régulièrement des cantates de Bach dans notre avec Jean-François Frémont, justement, à la maîtrise. Donc nous sommes bénis dans Bach depuis que nous sommes enfants. La Passion selon saint Matthieu, on l'a chantée avec la maîtrise. La messe en si de Bach, enfin voilà, Bach, c'est quelque chose qui nous habite. Et c'est un auteur que nous connaissons, que nous apprécions énormément, d'où ce choix.
D'où le choix. Et on écoute maintenant Delphine Galou, Jean-Christophe Spinozzi, parce que c'est cette version-là. Erba Madisch mein Gott, pardonne-moi mon Dieu, extrait de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien. Alors ici, c'est un extrait de La Passion selon saint Matthieu. Bach a aussi composé une autre passion, la passion selon Saint-Jean, célèbre également, et j'en ai encore assez récemment entendu une interprétation tout à fait remarquable à Pont-au-Mur. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival, Anne.
Pas du tout.
Qui s'appelle le festival Bach, Bach dans les Combrailles, c'est la région de Pont-au-Mur. Et puis il y a dans la passion selon Saint-Jean un extrait dont moi je suis absolument fan, c'est Roue de vol. Et je l'écoute presque en boucle dans une version donnée par le Collégium de Gand, sous la direction de Philippe Hervègue. C'est un musicien magicien pour moi que j'admire vraiment et avec lequel j'ai eu le bonheur de collaborer. Après avoir entendu Roue de vol, un auditeur a écrit le commentaire que je vais lire maintenant. Voilà ce qu'il écrit. Je vous garantis que lorsque vous êtes juste à côté d'un chœur et d'orchestre qui interprète cette musique, vous êtes dans un autre monde. Seuls les frissons vous rappellent que vous êtes là physiquement. Seuls les frissons vous rappellent que vous êtes là physiquement. Quand on entend du Bach, quel que soit le Bach, je crois que c'est vrai, n'est-ce pas, Anne ?
Tout à fait. Bach, c'est un compositeur merveilleux qui sait nous élever tout en nous laissant les pieds sur terre, en fait. Et ça, c'est incroyable. C'est extraordinaire.
À travers tout ce qu'il a écrit, quel que soit l'œuvre.
Avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup chanté, c'est à chaque fois une joie intense. L'apprentissage n'est pas toujours évident, surtout quand on... Enfin, pour avoir chanté la messe en si, par exemple, qui est techniquement difficile, mais une fois qu'on rentre dedans, ça passe tout seul.
Il y a des choses qui s'enchaînent presque logiquement, j'ai envie de dire, une fois qu'on a compris le déroulement, ce qui va advenir et ce qui est advenu, ce qu'on a chanté. C'est aussi en ça que Bach est magnifique. Je voudrais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais quelques années plus jeune, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, j'avais une petite trentaine, je parle toujours hors taxe évidemment, un collègue de 20 ans plus âgé que moi, et donc j'avais 30 ans, hein, je le trouvais très vieux. Il m'a dit un jour, quel est ton compositeur préféré ? Alors comme j'étais pianiste de formation, 30 ans, je lui ai répondu sans hésiter, Frédéric Chopin. Il m'a dit, c'est normal. Et il ajouta, ce collègue, dans 10 ans, tu répondras Mozart à cette question, et dans 20 ans, tu répondras Bach. J'ai rien dit, hein, j'ai pensé dans ma tête, quelle idée ! Eh bien, auditrice, auditeur, eh bien, Anne, je vais vous l'avouer, il avait raison. Oui, Jacques, je me permets de le citer, hein, pour le saluer très amicalement et très respectueusement. Oui, Jacques, tu avais raison. Avec toi, avec Anne, sans doute, je le clame haut et fort. Bach, c'est le boss. Bach, c'est le taulier. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Avec Bach, on était dans le pays du Nord. Nous voilà maintenant plus au Sud avec Vivaldi. Ouais. C'est aussi un extrait que vous avez choisi. C'est Sol date mio dolce amore, extrait de Orlando Furioso. Vous nous en parlez un petit peu ?
Donc, on a eu la chance de voir cet opéra en direct à l'opéra au Festival de Beaune il y a quelques années. J'en ai parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup cet extrait parce que d'abord, ça commence par un solo de flûte et je suis flûtiste. Donc là, il y a un traverso qui joue une petite mélodie, une mélopée assez sympathique. Et après, c'est le contre-ténor qui démarre, avec dans un air assez mélodieux et chaud, en fait, chaleureux. Vivaldi a quand même la réputation de faire de composer des mélodies, des airs qui sont pour l'opéra. On les connaît plus pour les quatre saisons, mais l'opéra, il a composé énormément d'opéras qui sont tous les plus somptueux les uns que les autres, et dont cet air-là que j'aime beaucoup.
Donc cet air-là, Sol date mio dolce amore, c'est extrait de Orlando c'est l'opéra, hein, vous le disiez, qu'on appelle plus communément Orlando Furioso, et c'est Antonio Vivaldi qui a écrit la musique sur un livret de Grazio Bercioli, d'après un poème, il faut le savoir aussi, d'après un poème de l'Aristote, et l'Aristote c'était un poète de la Renaissance italienne. La première représentation a eu lieu au Teatro San Angelo de Venise, dont Vivaldi était le directeur. Je crois que Venise n'est pas un lieu totalement inconnu de la famille Lefebvre.
Ah, nous avons eu la chance de pouvoir partir à Venise pour un week-end de chant, puisqu'on est parti pour un concert, week-end du 16 novembre, donc c'était il y a un petit mois. Donc on a pu découvrir la ville de façon assez rapide, mais on était superbement bien logés dans une maison, une petite maison, qui donnait sur la lagune avec une vue incroyable sur la ville. Enfin voilà, et on a visité rapidement la ville. On est allé sur les pas de Monteverdi justement, sur sa tombe. On est allé à la basilique dei Frari. On a chanté un petit cantate domino par cœur de lui. Parce que pour moi, on allait à Venise, il fallait aller sur la tombe de Monteverdi, qui est un de nos héros musiciens. Voilà, et on a pu aller à la basilique Saint-Marc. Et donc on a pu voir Venise rapidement, mais sous le soleil. Et c'était un moment magique pour la famille. C'est des moments qui nous unissent avec un concert le samedi soir.
Qui unissent, qui ressourcent, qui poussent à continuer, à aller encore plus loin.
En fait, ces moments-là, c'est des moments forts. Ça nous permet d'aimer ce qu'on fait, continuer à aimer notre rôle, enfin notre travail de chanteur en fait en famille.
Et de passeur d'art et de passeur d'émotion.
Voilà, passeur de beauté aussi.
Oui.
Parce que nous essayons de chanter des belles choses le mieux possible.
Alors,
à travers des textes que nous aimons.
La version que vous avez choisie de Soldate mio dolce amore, c'est celle donnée à la chapelle de la Trinité à Lyon, dans le cadre du festival de musique baroque, et c'est Jean-Christophe Spinozzi, on en parlait tout à l'heure, qui est à la baguette, et il dirige le très fameux ensemble Matthäus, et à nouveau Philippe Jarouski, que nous allons peut-être entendre dans l'extrait que voilà. Soldate mio dolce amor, Orlando Furioso, c'est maintenant. C'est presque maintenant. Philippe Jarouski se prépare et il va démarrer incessamment. On a un petit problème technique. Ah, ça y est. Alors il y a une histoire évidemment, si c'est un opéra, c'est une histoire où il y a des méchants, des gentils, ça se passe sur une île où il y a une vieille magicienne qui s'appelle Alcina, elle a établi son pouvoir en dérobant les cendres de Merlin l'enchanteur. Oh, ça fait déjà peur hein, ça, non? Elle jette des sorts pour séduire des chevaliers qui débarquent sur l'île, et puis elle accueille Angelica, c'est la fille du roi de Catay, amoureuse de Medoro, mais cette Angelica est désirée aussi par un paladin. Bref, j'aime, je t'aime, tu m'aimes, j'aime l'autre m'aime, et peut-être qu'on va s'aimer. Bref, allez, on va aller tout de suite à la fin. Ouf, tout finira bien, et la méchante sorcière sera vaincue. Ça, c'est quand même important que ça se passe bien. Les paroles de l'extrait, alors, pas tout, hein, soldate mio dolce amoro, ça veut dire seulement de toi, mon doux amour. Voilà pour une traduction du titre, en tout cas. Et tiens, je vais oser un rapprochement. Seulement de toi, mon doux amour. Un rapprochement avec une chanson que chantaient les Platters, qui s'appelle Only You. Et je ne peux pas m'empêcher qu'il y ait des liens à tisser. Seulement de toi, mon doux amour, ce cœur aura la paix et trouvera réconfort. Tes belles lumières vagues sont comme des étoiles qui permettent que l'amour me guide vers le port. C'est beau, non? Ça, c'est une traduction, on va dire libre, des paroles qu'on vient d'entendre, en tout cas d'un extrait. Et on entend le fameux contre-ténor, haute contre.
Contre-ténor.
Ouais, contre-ténor. Voilà. Et donc, c'est une voix qui est proche, dans la hauteur, de celle d'un de vos fils, c'est ça hein?
Celle de Gaël, tout à fait, voilà. Oui. Contre-ténor, c'est un homme.
Oui.
Qui chante en voix de tête.
Voilà.
Et Jarouski a la particularité de chanter en voix de tête, mais en voix assez aiguë, donc il est limite sopraniste. Il a une voix assez fine, contrairement à Gaël, lui qui a une voix plus contre-ténor aussi. Peut-être il est grave moins haut. Il a une voix plus ample, à la, un peu à la Andreas Scholl, qui était un peu son idole de chanteur.
C'est pas mal comme idole, je trouve. Ouais. On revient en France avec Marc-Antoine Charpentier.
Allez, Charpentier.
Qui a écrit plein de choses, dont une très belle messe de minuit. C'est une composition particulière, je crois, parce que elle mêle des airs populaires, c'est ça ?
Alors en fait, Marc-Antoine Charpentier, comme beaucoup de ses comparses et beaucoup de musiciens, ont pris les airs populaires. Là, on a une jeune pucelle, tous les bourgeois de Chartres, et s'est servi de ces airs populaires pour créer sa messe de minuit. Tous les airs, le Kyrie, le Gloria, le Credo, l'Agnus.
Donc ça, c'est la succession des numéros d'une messe, on va dire.
Et il les a intercalés par des Noëls aux instruments. C'est pour créer un côté populaire, festif à la messe, puisque Noël, évidemment, c'est la fête, c'est la joie, c'est la... Et donc Charpentier était plutôt très très doué pour créer ces ambiances-là. Nous allons la chance de la chanter cette messe ce week-end en concert dimanche.
Et pour en France ou à l'étranger ?
En France. Alors ça sera avec la maîtrise justement de Notre-Dame, là où sont tous nos enfants. Alors, et donc on va chanter dimanche, mardi, voilà, à Vaucresson, Versailles et Paris. Voilà, on va faire 3 concerts avec cette messe et un dialogus oratorio.
Ça va être beau, forcément.
Café Charpentier, voilà. Oui, c'est très beau, bien sûr.
Alors, pour revenir à la messe, je voudrais simplement dire que le manuscrit, ce qu'a écrit Marc-Antoine Charpentier, s'est conservé à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. C'est consultable, donc, évidemment, avec toutes les précautions d'usage. Un extrait de Marc-Antoine Charpentier de la messe de minuit. C'est maintenant ? Allez, on écoute. La messe de minuit, moins 5. Auditrice, auditeur, vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui de Donner une nouvelle note sur RDC 93.4 et 92.5, savez-vous ce qu'est une tarentelle ? Alors, moi je crois savoir, mais je vais demander à Anne ce que c'est qu'une tarentelle.
Alors une tarentelle, c'est une danse napolitaine en fait, italienne donc du coup, puisque c'est de Naples, traditionnelle, une danse traditionnelle. Qui est dansée, chantée.
Ouais. Alors pourquoi il se dit que la tarentelle, elle a une vertu
aphrodisiaque.
Pour soigner quelque chose et soigner la morsure de la tarentule.
De la tarentule,
parce que plus on va danser sur un rythme de tarentelle, qui on va l'entendre tout à l'heure, assez enlevé, rapide, plus on va transpirer et plus les méfaits de la morsure de la tarentule vont être amoindris. C'est lié à la ville de Tarente aussi, évidemment, d'où le nom tarentelle. Mais peut-être que c'est pas la tarentule finalement, parce que la tarentule c'est une grosse araignée, mais qui mord certes, mais peu par rapport à une autre beaucoup plus petite qui s'appelle la magminate. Je prends mon accent italien du meilleur cru, qui elle est aussi appelée la veuve noire méditerranéenne et qui elle était on ne peut plus dangereuse et l'est sûrement encore. Ce que nous allons écouter maintenant, ça s'appelle la tarentelle. Et c'est interprété par l'arpeggiata. Vous connaissez ?
Alors moi, on connaît très bien l'arpeggiata. On les a même entendus en concert. Et nous, on l'aime particulièrement, ce groupe, cet ensemble instrumental, parce que ça, justement, il rassemble des airs populaires, des airs traditionnels, avec des instruments savants, des musiques savantes. Ouais, et ce disque a particulièrement d'importance chez nous parce que c'est un disque qu'on a beaucoup écouté en famille le dimanche à table, parce qu'on aime beaucoup écouter de la musique quand on est en train de manger. Et particulièrement le dimanche, la tarentelle, chez nous, ça a une consonance très particulière. La tarentelle du dimanche. Et le CD complet est absolument incroyable. Ouais. Très visif, très figuratif. Les musiciens, les chanteurs sont tirés du monde populaire, vraiment fabuleux. Enfin voilà, ça a écouté.
Alors Pelliata, c'est un ensemble à géométrie variable fondé par Christina Pluart. C'est une théorbiste. Alors le théorbe, c'est un instrument à cordes.
Justement, théorbe, c'est un instrument entre guillemets savant. Enfin voilà. Et elle a utilisé cet instrument en le mélangeant avec une clarinette, avec beaucoup de percussions.
Et avec des instruments de musique ancienne aussi.
Voilà, des guitares. Oui. Donc tout ce mélange-là fait un ensemble très, très harmonieux, en mélangeant le savant, le populaire, toutes ces musiques qui vont très bien ensemble.
Une particularité de cet ensemble, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont là, selon les besoins de ce qu'ils ont interprété. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de base et puis d'autres qui sont invités. Et parmi les chanteurs qu'on entend souvent, moi, j'avoue un penchant pour une mezzo-soprano qui s'appelle Luciana Mancini, et puis un penchant pour Vincenzo Capezzuto, voilà, parce que quand même, c'est assez surprenant, comme voilà une voix d'alto ou d'altiste, et l'ensemble crée des réalisations surprenantes, et peut-être qu'on va être surpris maintenant par la tarentelle.
La tarentelle.
Allez. Quelques commentaires d'auditeurs. L'un a écrit « Ils vivent la musique ». Anne, vivre la musique pour l'interpréter, c'est important. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, vivre la musique ?
Vivre la musique, ça veut dire ressentir ce qu'on chante, ce qu'on dit, ce qu'on joue, en se mettant dans le rythme. Là, c'était particulièrement très rythmé, donc ils vivent la musique, ils dansent sur scène souvent, ces gens-là qui jouent. Donc ils vivent la musique corporellement, en l'imprégnant.
Et pas seulement quelque chose de figé, quelque chose de plaqué.
Qui joue.
Un autre auditeur a écrit « C'est un vrai bijou », après avoir entendu cette tarentelle et après l'avoir vue, parce qu'il ajoute, cet auditeur, « Ils sont aussi acteurs », c'est ce que vous venez de dire un petit peu, Anne. « Ils semblent éprouver beaucoup de plaisir à jouer cette pièce. C'est toujours un immense plaisir pour les oreilles, les yeux, l'âme, l'esprit. » Et l'auditeur conclut en disant « Merci ». Anne, un tout petit moment d'arrêt, s'il vous plaît, sur la notion d'effort plaisir. Le plaisir des spectateurs, des auditeurs, peut-il naître avec ou grâce au plaisir des interprètes, ou est-ce que le plaisir est d'autant plus grand que celui des interprètes l'est ? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a...
Je pense que c'est une douce alchimie. Je pense que nous, les artistes, on vit difficilement sans nos auditeurs. Et on peut donner de l'émotion, enfin on peut donner des émotions en chantant quelque chose de beau. Et si on ressent l'émotion dans le public, enfin en tout cas quand on est en concert, ben c'est d'autant plus fort en fait de le vivre. On ne devrait pas avoir besoin les uns des autres, mais en fait je pense qu'il y a une alchimie qui se produit, c'est un miroir continuel entre les uns et les autres. Et en fait c'est assez magique à vivre. Il faut quand même être assez... si on est trop sensible, ça peut être difficilement de contenir les émotions. Mais on a pu avoir beaucoup d'expériences émotionnelles en concert, de voir les gens être complètement subjugués ou de vivre avec nous en fait la musique qu'on chante. Et ça, je pense que c'est magique à vivre, en fait. Voilà. Je pense que c'est une expérience. La musique, c'est avant tout vivant.
Ouais.
Et donc, le faire qu'à travers le disque, c'est super. Mais ce qui fait vraiment un artiste, c'est le concert. Enfin, c'est
donner la musique aux autres.
Voilà. Faire de la musique vivante. En fait, on crée de la musique vivante, en fait.
C'est un clin d'œil à l'émission.
Et c'est pour ça qu'on fait revivre chaque jour. Parce que quand on chante de la musique ancienne, comme nous, on fait souvent, on fait vivre aujourd'hui. On donne des émotions avec de la musique des années d'il y a plusieurs siècles, et c'est ça qui est superbe, la musique est toujours existante.
Avec une interprétation d'aujourd'hui, forcément, continuer à faire vivre, et donc à faire évoluer, parce que rien ne dit, on n'a pas d'enregistrement, enfin moi j'en ai pas trouvé, d'époque, hein, donc rien ne dit.
On a des manuscrits, on a des écrits, on a beaucoup de chercheurs qui ont cherché pour trouver l'interprétation juste. Après, avoir toutes les interprétations des morceaux... On est un peu libre quand même,
oui, bah quand
malgré
même.
Tout.
Mais même à l'époque, je crois qu'il était libre. Il n'y avait pas autant, j'ose dire, autant de canons, autant d'indications que la musique d'aujourd'hui, avec les notations chiffrées, par exemple, que connaissent bien les clavecinistes. Par rapport à la tarentelle, évidemment, je ne peux pas m'empêcher une pensée pour la fameuse tarentelle d'Yves Duteil. C'est lié, hein. Oui. Célèbre et talentueux musicien, et j'ai notamment eu le plaisir de l'entendre il y a très longtemps dans un festival au pied de la Tour à Marton. C'était il y a quelques années, au moins. Toutefois, j'ai entendu dire qu'un nouveau festival, ou en tout cas quelque chose, était relancé à Marton. Alors Marton, vous ne savez pas où c'est, Anne, mais c'est une petite ville de Charente, et c'est une grande ville, parce qu'il s'y passe plein de choses. Alors les organisateurs de ce futur événement, si vous m'entendez, sachez que vous serez les invités bienvenus dans l'émission Donnez nos notes sur RDC 93.4 et 92.5. Alors la musique, c'est l'échange, vous dites, Anne, mais parfois... Il y a des sauvages. Comment ça se fait, ça? Il y a des sauvages dans la musique. Je regarde une composition de Jean-Philippe Rameau qui s'appelle « L'air des sauvages, extrait des Indes galantes ». Alors d'où ça vient, ça?
C'était à l'époque des colonies, enfin la découverte de l'Amérique. On avait ramené des sauvages, en fait, à la cour de France.
On les appelait sauvages, en tout cas.
Voilà, on les appelait sauvages. Et en fait, du coup, Jean-Philippe Rameau a composé... Il se prenait toujours des événements réels, de la vie réelle. Et il l'a intégré dans son opéra. L'air des sauvages, on voit des sauvages danser sur scène.
Alors, c'est les Indes
galantes. C'est des acteurs... Voilà, des Indes, oui, ouais. Qui viennent des soi-disant des Indes, mais c'est pas les Indes, tout le monde sait que c'est l'Amérique.
Un peu trompé, hein, sur la carte.
Voilà, ouais. Et donc en fait, on fait des sauvages, on les rend galants, en fait. On les appelait les sauvages, voilà, bon.
On les civilise.
On les civilise, voilà.
Mais
sur scène, en tout cas, ils sont bien déguisés en sauvages, en indiens, voilà, il reste ce qu'ils sont. Ouais.
Alors c'est une composition autour de 1700, hein, et c'est inspiré par la danse de deux Indiens qui étaient venus de Louisiane. Des Iroquois, je crois, et on a encore souvent la crête des Iroquois, oui, sur scène quand on voit ça. Et c'est une danse à laquelle Rameau avait assisté à Paris. Il voyait des Indiens et ça lui a inspiré ce morceau sur un rythme de marche. C'est sûrement pas un morceau, on va dire, qui vient des Indiens eux-mêmes, encore que c'était très, très rythmé, leur morceau. Et j'ai osé, Anne, choisir l'interprétation de Minkowski parce que je la trouve très intéressante. Est très belle. La voici. We'll be right back.
impossible, trop vite. Ça n'est pas au prix de tes fameux.
Avec un auditeur qui écrit j'écoute, j'écoute, je réécoute encore et encore. Merci pour ces moments magiques. Je vais pouvoir dire directement, Anne, serez-vous d'accord ? Vous nous direz après. Merci Marc Minkowski, c'est lui qui dirigeait. Merci les musiciens du Louvre. Bravo Magali Léger, c'est la soprano que l'on entend. Et bravo Laurent Naouri, c'est le baryton qui chante avec elle. Vous êtes d'accord ? C'est beau ?
C'est très beau. C'est en fait, c'est pas beau dans le c'est beau dans le sens où c'est. C'est une danse légère et agréable à écouter. On jouait en voûtante, en fait, c'est envoûtant.
Alors au départ, il faut savoir que c'est une composition pour clavecin et qu'il a après lui-même, Rameau, reprise pour la mettre dans, l'inclure dans un opéra. Oui. Oui. Et avec la famille Lefebvre, tiens, je vais vous dire que j'adore.
Donnez-nous vos notes.
C'est sur
R-R-R-D-D-D-C-C-C.
Le morceau suivant, c'est A Chloris de Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn, il a écrit plein de choses, notamment A Chloris sur un poème de Théophile de Viau. Pourquoi vous avez choisi cet extrait, Anne, pour nous faire,
faire écouter ? Alors, j'aime beaucoup les mélodies de Reynaldo Hahn, qui sont un compositeur du XXe siècle, qui écrivait sur des poèmes. Donc là, c'est Théophile de Viau qui a écrit pas mal de choses. Et A Chloris, je l'aime particulièrement parce qu'il y a un petit fond musical, l'accompagnement est sur un air de Bach, en fait. Et comme j'aime particulièrement Bach, je trouve que c'est encore plus. Je trouve que c'est un côté tout à fait inspiré et magique, en fait. Voilà, magnifique.
Alors, il y a un auditeur anglophone, lui, qui est complètement d'accord avec vous, parce que voilà ce qu'il écrit. Quand il a entendu ça la première fois, il a dit « So beautiful and so much back in it too ». Si merveilleux et tellement de back là-dedans aussi. Donc ouais. C'est aussi le lien entre deux époques musicales, finalement.
Et en fait, je trouve que Bach a toujours beaucoup inspiré les compositeurs. Il a été remis au goût du jour par énormément de compositeurs. Et qu'un compositeur romantique puisse prendre un peu de lui et mettre une mélodie dessus, pour moi, il n'y a rien de... C'est le must, en fait. Voilà.
Ouais, pour Reynaldo, ça va tout à fait dans le sens que vous dites, et de ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, parce que l'important, c'est quoi ? C'est finalement la véritable raison d'être du chant, c'est-à-dire cette combinaison entre... ou ce mélange, ou cette union... entre le son et la pensée, le son, si beau qu'il soit, pour Reynaldo Hahn, n'est rien s'il n'exprime rien. Donc, je vais oser dire que annonner la musique, ça veut dire qu'on a une compétence technique, certainement, qu'on connaît le solfège, on va dire, pour faire court. Mais l'interpréter, c'est bien autre chose, non ? Ça ne suffit pas.
Il faut avoir une belle intelligence de la musique, il faut avoir une formation, il faut être, faut avoir appris. Et puis ça demande beaucoup de temps de travail. On commence tout petit ou pas d'ailleurs, il y en a qui commencent plus tard. Ça peut être inné, un talent.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard, voilà. Mais c'est vrai que les très très belles interprétations, ce sont les chanteurs, en tout cas ici, ce sont des gens qui ont beaucoup beaucoup travaillé pour alors arriver à quelque chose de beau, en fait.
On va entendre un extrait d'un recueil de mélodies sur le poème de Théophile de Viau dont je disais tout à l'heure, avec une idée d'expression ou d'expressivité subtile, c'est-à-dire l'union entre le son et l'intellect, c'est une des caractéristiques de ce qu'on appelle l'esprit français. Et cette fois, c'est dans A Chloris, écrit et composé par Reynaldo Hahn.
Good.
Marane pour moi en entendant ça, grâce à vous ce matin, comme nombre d'auditrices et d'auditeurs de RDC, je pense qu'il y a presque quelque chose d'hypnotique, parce que c'est une douce partie de piano, comme quelque chose d'un ostinato qui revient sans arrêt, du néoclassique, on pourrait dire.
Néo-baroque, ouais, si on peut dire, aussi, si c'est du Bach.
Oui, c'est si populaire quand même, cette mélodie, que c'est souvent la seule œuvre de Anne que beaucoup connaissent ou reconnaissent. Ils entendent ça, ils disent « Ah, c'est Anne !» Comme on entend parfois quelque chose, c'est le boléro, et on dit « C'est Ravel !» ou on entend Ravel et on pense uniquement et seulement au boléro, alors que l'un comme l'autre ont écrit tellement d'autres choses. On retourne en Italie, voyage en Italie, deuxième partie, avec Antonio Vivaldi, le Stabat Mater. Alors ça, c'est une commande qui un jour a été passée à Vivaldi. C'est une œuvre en l'honneur de la Vierge par la paroisse d'une église située à Brescia, la ville natale du père du compositeur. Alors, il ne pouvait pas dire non, évidemment, forcément. Et c'est comme ça qu'est advenu le Stabat Mater, dont la première fut donnée dans cette ville. C'est une des compositions les plus connues de Vivaldi. Il y en a d'autres, hein, vous citiez les quatre saisons, puis on a entendu d'autres tout à l'heure. Mais je crois, Anne, que vous connaissez assez bien, sinon plus, celui qui va chanter pour nous maintenant dans l'émission de Nouveau Note, ce 12 décembre 2024, sur RDC 93.4, 92.5. Alors, qui est-ce qui chante?
Alors, le chanteur, c'est Gaël Lefebvre, mon fils aîné, qui est contre-ténor, bien sûr, puisque je le disais, et qui a enregistré ce titre avec une vidéo sur YouTube, justement à l'occasion de... Parce que quand on est chanteur, il faut faire des vidéos pour se vendre. Et il a choisi cette œuvre qui me réjouit, puisque c'est une œuvre qui a bercé mon enfance, mon adolescence. J'écoutais ça en boucle dans mes oreilles. J'adore, en fait, cette œuvre est absolument magnifique.
C'est une forme de transmission, de continuité.
Et ben en fait, c'est un hasard. En fait. Nos enfants, je ne sais pas comment ils font. Alors voilà, peut-être que je l'écoutais beaucoup quand ils étaient enfants, je ne m'en souviens pas, peut-être, c'est possible. En tout cas, ils aiment la musique qu'on aime. Voilà, je ne sais pas, ça s'est fait comment, je ne sais pas. Mais et donc lui, c'est vrai que pour contre-ténor, le Stabat Mater de Vivaldi, c'est une œuvre vraiment spécifique pour contre-ténor très belle et très bien écrite. Et donc lui, il le chante superbement bien.
Ça, c'est la maman qui le dit, mais pas seulement la maman, c'est aussi la musicienne. Et même, tiens, avant qu'on l'entende, je vous ai dit que je suis d'accord, on en reparle juste après. Voici, comment ça s'appelle ?
Stabat Mater. C'est le premier titre, et accompagné alors par Jean-François Frémont, qui est le maître de chapelle de Notre-Dame de Versailles.
Dont on a parlé tout à l'heure.
Sur l'orgue de Notre-Dame.
Allez, c'est maintenant. Commentaire adressé au chanteur par un auditeur, peut-être quelqu'un qui connaît ce chanteur, parce qu'il a écrit ça, l'auditeur. Il a écrit « Non, sans rigoler, tu déchires !» J'aurais presque envie d'ajouter, mais Anne, « Mec, tu déchires, mec !» Je n'aurais peut-être pas formulé comme ça ces compliments, mais ils sont très, très, très sincères, et je suis complètement, mais alors complètement d'accord. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Alors, la famille Lefèvre, tout le monde chante. Certains chantent en soliste. On vient d'entendre Gaël, accompagné alors par Jean-François Frémont. Mon petit doigt me dit que Blanche chante aussi. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, toute seule parfois.
Blanche, elle est donc la deuxième de la famille. Elle est soprano. Elle chante, oui. C'est une artiste lyrique, chante, oui, en soliste. Et en chœur, mais surtout, enfin, elle aime vraiment bien le solo, enfin, la soliste, être soliste.
Ouais. Voilà, alors maintenant, elle va nous chanter quelque chose. Bon, elle n'est pas là, hein, c'est un enregistrement, mais vous allez nous le présenter, s'il vous plaît.
Alors, elle va chanter, interpréter le Laudate Dominum des Vêpres du Confesseur de Mozart. Dans Laudate Dominum, en fait, commence par un long, justement, solo de soprane, et après est repris par le chœur. Et donc là, ça a été enregistré justement au même endroit que Gaël tout à l'heure, dans l'église Notre-Dame de Versailles. Lors d'une cérémonie, elle est souvent demandée pour chanter par-ci, par-là. Et là, je pense que c'était des obsèques.
Mariage, je crois.
C'est un mariage, voilà. C'est un mariage.
Je crois.
Oui, c'est un mariage. et donc, voilà, c'est une œuvre qui est qui lui va très bien, je trouve. Parce que moi, je trouve qu'on entend beaucoup trop cette œuvre chantée par des sopranos style roman, enfin avec des grosses voix, alors que je trouve que ce chant est porté par elle est très
la douceur
est très doux et très, elle a une voix qui est très droite et moi je préfère largement ça quand je l'entends,
ouais.
Cette version là
puis c'est la fille, hein.
Et c'est ma
alors
fille,
Gaëlle, bravo, voilà. Certes, mais allez Blanche, je vous dis bravo par anticipation. Je suis sûr que les auditeurs de RDC vont être d'accord. C'est maintenant. Et donc c'est Laudate Dominum, extrait des Vêpres solennelles du confesseur, si je prends le titre complet, de Wolfgang Amadeus Mozart. Je crois qu'il y a un autre musicien qu'on entend.
Alors on entend un violoniste. Alors je vais parler de lui parce que c'est quand même un personnage important pour notre famille. C'est Jean-Philippe Kusma qui est un violoniste qu'on connaît depuis très très longtemps, qui a beaucoup joué les cantates de Bach avec nous, mais surtout qui a beaucoup travaillé avec nous sur nos CD, sur les arrangements, sur les adaptations surtout, parce que pour les petits ensembles, qui joue souvent et qui est devenu un ami de notre sphère musicale. Et c'est très très précieux d'avoir des gens de ce talent qui nous entourent, qui nous encouragent, Et ce fameux violoniste faisait partie des musiciens dans le chœur de Notre-Dame à l'occasion des festivités, puisqu'il est à l'Orchestre de Radio France. Donc voilà, je le remercie
c'est dire à l'antenne. Son talent, sa qualité.
Oui, mais c'est surtout un talent humain, humainement, il est
très,
très, très
avec,
agréable. Hein, ouais. Et voilà, un musicien de son ampleur, c'est une chance pour nous d'être si bien entourés, en fait,
de
musiciens talentueux qui nous permet de pouvoir aller au bout.
Les gens de talent attirent les gens de talent, faut quand même le dire, n'ayons pas peur. En tout cas, cette interprétation, c'était pour une cérémonie de mariage, je crois. Et puis, la mariée, elle avait écrit quelque chose. Quand on y pense, c'est la classe de pouvoir dire « c'est Blanche Lefèvre qui chantait à notre mariage ». Alors là, je rajoute un commentaire. Ben ouais. Bravo Blanche, merci Blanche. Puis bravo aussi et merci aux instrumentistes qui vous accompagnent. Miserere. Qu'est-ce que ça veut dire, miserere, Anne?
Miserere, ça veut dire « ayez pitié ». Miserere mei Deus Dominus. Ayez pitié de moi, Seigneur.
Et donc c'est
le titre du célèbre Miserere d'Allegri, de Gregorio Allegri.
Ouais. Alors ça appartient à la grande catégorie des motets, c'est-à-dire une pièce vocale, religieuse ou profane, qui est apparue au XIIIe siècle, en tout cas chez nous, écrit à plusieurs voix, avec ou sans accompagnement instrumental, d'une longueur tout à fait variable. Et puis ce motet a été interprété pour la première fois dans la chapelle Sixtine, et quand il a été donné... Finalement, d'après le on dit, mais quand même, on a cessé d'écrire des Miserere parce qu'on pensait que rien ne pouvait être fait de mieux que celui qui venait d'être donné. On l'écoute ?
On l'écoute.
Allez, on l'écoute. Miserere, Allegri. Alors Anne, on a entendu qui ?
On a coupé beaucoup trop tôt.
Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a entendu chanter ?
Alors en fait, ce Miserere, c'est notre famille et pas que.
Ah,
et un membre et deux membres de plus, un frère. Et on a chanté ça à l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude, c'était en 2017. C'est une des premières fois où on a vraiment chanté en famille. On n'était pas tous là, on a fait ça un peu à pied levé, sachant que ce Miserere, nous, on l'a beaucoup, beaucoup chanté, nous, dans notre ensemble vocal. Et on a eu l'occasion de chanter, on l'a chanté, et d'un seul coup, voilà, il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu de montage.
Une
seule prise. Allez le voir, écoutez sur notre chaîne YouTube,
oui.
Puisque là, il a été coupé avant la note fatidique, le contrut,
bah oui,
le fameux contrut.
Ça donne envie d'aller voir.
Le fameux merveilleux contrut chanté par un soprane qui était blanche à l'époque, elle avait 17 ans.
Ouais. Et déjà talentueuse, et voilà.
Et donc voilà, c'est un moment merveilleux pour notre famille de pouvoir interpréter cette œuvre.
Alors, d'après une légende ou une réalité, quelle est la frontière entre la réalité et puis le qu'en dira-t-on, je ne sais pas toujours, mais l'œuvre est restée pendant 130 ans la propriété exclusive du Vatican, sous peine d'excommunication, jusqu'à une retranscription de mémoire par un musicien qui, quelque temps après, répondait au prénom de Wolfgang Amadeus. Il avait seulement 14 ans, un petit jeune qui avait de l'avenir, Mozart sûrement, une seule écoute, et il avait retranscrit ça pour pouvoir transmettre ça et qu'il soit donné à nouveau. C'est Gregorio Allegri, le compositeur, que vous avez choisi pour nous, Anne, et en fait, c'est pas son vrai nom tout à fait, parce que son vrai nom serait Gregorio Costantino. Et le nom Allegri s'est formé pour être son nom de scène ou de plume. Et c'est le prénom de son grand-père. Son nom d'origine, son grand-père s'appelait Allegro. Alors ça, c'est la question qui est posée sur le nom de scène du nom d'artiste. La famille Lefèvre, c'est votre vrai nom, Lefèvre ?
C'est notre vrai nom. On n'a pas inventé notre nom de scène.
Certains gardent le leur, d'autres en changent. Pourquoi ? Alors, il se dit que, sans doute historiquement, parce que c'était la crainte de l'excommunication, puisque l'Église, à une époque, refusait les artistes, c'est-à-dire les saltimbanques. Vous savez, c'est ceux qui osent franchir la banquette. La banquette, c'est ces blocs qui entourent l'arène d'un cirque, d'où vient le mot saltimbanque. Alors, il y a un jeu qu'on va faire ensemble, Anne. Moi, je vous dis le vrai nom, vous me trouvez le pseudo.
Là.
On essaye ?
On essaye.
Allez, les auditeurs jouent, c'est maintenant, il y en a 10. Jean-Baptiste Poquelin.
Molière.
C'est Molière. Philippe de Hautecloque. Le maréchal Leclerc. Frédéric Austerlitz. Fred Astaire. Bernard Schwartz. Tony Curtis. Frances Ethel Gum, Judy Garland, alors des fois c'est facile, des fois non. André Robert Rimbourg, Bourville, Sophie Maupu, Sophie Marceau, Claude Moine, Eddie Mitchell, Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, oui, Annie Chancel, Sheila.
Désolé.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez 2 réponses sur 10, c'est très bien. J'espère que les auditeurs en auraient eu autant ou peut-être mieux. Allez savoir. Alors c'est le moment du jeu, justement. Le moment du jeu, c'est une question que je pose dans l'émission de Des Nouveaux Notes. Et qui joue ? Ben, tous ceux qui veulent, tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne quoi ? Ben, on gagne l'invitation à venir participer, assister à une émission de la série de Des Nouveaux Notes sur RDC 93.4, 92.5. Comment on gagne ? En appelant le numéro du standard que je donne maintenant. C'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. Et la question porte sur le nom de scène ou le nom d'une personne, le vrai nom. Le vrai nom de cette personne, c'est Yolanda Gigliotti. Yolanda Gigliotti, elle est plus connue sous son nom d'artiste. Et la question, c'est quel est le nom d'artiste, le pseudonyme, dirais-je, l'alias de cette chanteuse italienne, puis française, née en Égypte, Yolanda Gigliotti. Allez, un indice, laissez-la danser, et puis peut-être que ça pourra aider les uns ou les autres. On appelle le 05 45 95 09 87. Quel est le nom d'artiste de Yolanda Gigliotti ? C'est maintenant, on peut appeler, dépêchez-vous, seule la première réponse. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes.
Blanche l'a repris cette chanson.
Alors, ça c'était le jingle numéro 5, déjà tout passe vite, tout va vite, et l'heure tourne, mais on va se tourner vers un autre compositeur, Kim André Arnesen, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors qui c'est ? Comment vous le connaissez ? Qu'est-ce que vous chantez de lui ?
Alors, c'est un compositeur norvégien, contemporain, puisqu'il a eu une quarantaine d'années, et on chante un Dormi Jésus. C'est une berceuse à l'enfant Jésus. Ça fait partie des chants que j'ai entendus parce que j'écoute beaucoup de musique. Et un jour, je me suis dit, tiens, ça serait merveilleux qu'on chante ça en famille. Et le temps que je l'écoute, que je récupère la partition, que je regarde la partition, je me dis, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, etc. Et puis on s'est lancé.
Donc là, vous êtes
il y a quand même un certain nombre d'années.
Ouais. Vous êtes en train de nous dire, vous regardez la partition, prêt, pas prêt, c'est-à-dire que comment vous choisissez ce que vous chantez ? Je parle de la famille Lefebvre.
Alors, finalement, je choisis en fonction de nos capacités, parce que d'abord, on n'est que 8, et puis des jeunes enfants, donc on ne peut pas chanter n'importe quoi. Et donc moi, j'écoute, je regarde la partition et je me dis, ça c'est bon, on peut le chanter. Ça, s'il faut encore attendre un peu, ça peut venir quelque temps, je mets de côté. Donc ce Dormi Jésus, je le trouvais particulièrement magnifique, avec toutes les bouches fermées, puis un solo de soprane par-dessus, donc là, en tout cas, en l'occurrence, chanté par Blanche. C'est une berceuse, et donc on a beaucoup chanté en concert, qu'on a fini par enregistrer, on a fait un clip, qu'on a sorti il y a 4 ans, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Et donc on aime beaucoup ces compositeurs de musique nordique. Il y a lui, il y a Ola Diallo qu'on chante beaucoup, parce qu'ils font une musique qui ressemble à la musique un peu magique, somptueuse, avec beaucoup de couches sonores, des couches bouches fermées, des solos, des solistes, des contre-chants. qui fait que on apprécie particulièrement ce style.
Il n'y a pas de routine, il y a des relances, tout en étant une forme de sérénité, en tout cas.
Hein. Voilà, exactement.
Au départ, pour cette œuvre, c'est une commande d'un chœur qui s'appelle, c'est un chœur de chambre qui s'appelle A Cappellissimo. Alors un chœur de chambre, c'est un petit peu plus nombreux que 8 en général, sans être non plus un grand chœur, une chorale de 45 ans. C'est un chœur qui est établi à Trondheim, c'est-à-dire en Norvège, et placé sous la direction de Grete Dahling. L'objectif de ce chœur, c'est l'interprétation, la meilleure qualité d'un répertoire a cappella de différents courants musicaux. Je sais que l'objectif est atteint, mais je sais aussi que cet objectif est partagé par la famille Lefebvre. Et je sais encore que là aussi, il est atteint.
Et on a fait une vidéo YouTube. Ça a été posté sur Facebook par un groupe que je ne connais pas forcément. Donc la vidéo a été postée. Et l'auteur lui-même, Kim André Arnesen, a commenté notre version en disant « merveilleuse version de la famille Lefebvre ». Et pour nous, c'était la meilleure des récompenses. L'auteur nous félicite de l'interprétation de son œuvre. C'est quand même incroyable. Je voulais quand même le dire parce que le jour où on a vu ça, mais on était tellement heureux en fait.
Il faut qu'il vienne l'écouter en direct, alors il faut l'inviter, ou alors il faut aller mieux encore.
Non mais c'est bien, il a écouté là-bas. La version internet, YouTube, c'est très bien, mais on est très heureux de pouvoir que en fait la musique, justement grâce au réseau, grâce à YouTube, elle traverse les océans et même ne serait-ce que les frontières, puisque la Norvège, c'est pas si loin.
Mais je trouve, moi, que c'est envoûtant ce qu'on va entendre.
Voilà, c'est envoûtant.
C'est un immense instant de pureté vocale et c'est interprété par la famille Lefebvre, Dormi Jesu de Kim André Arnesen. C'est maintenant. Merci beaucoup Anne, merci encore et bravo à toute la famille Lefebvre. Que dire après ça, pas besoin d'ajouter grand chose. Ou alors tiens, je vais reprendre pour parler de jeunes un mot qu'on entend souvent, le fameux « bé ouais, c'est super ». La famille Lefebvre, seriez-vous quelque part les rois et les reines du monde?
Oula, non, pas du tout. Parce que, non.
Pourquoi je dis ça? Parce que mon petit doigt m'a dit que vous avez un penchant, des souvenirs particuliers avec un extrait de Roméo et Juliette, la comédie musicale de Gérard Presgurvic, Les Rois du Monde. Pourquoi ça vient maintenant ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre émission d'aujourd'hui, Anne?
Quand vous m'avez demandé les titres que j'aimais bien, c'est vrai que on aime beaucoup la musique classique, c'est sûr, mais on aime aussi beaucoup la musique moderne. On aime vraiment tout type de musique chez nous. On n'écoute pas qu'une seule chose, on écoute plein de trucs différents. Ouais. Surtout avec les enfants, toutes les générations représentées, c'est assez libre chez nous. On met la radio, on change. Et en fait, il y a à peu près 3 ans environ, je partais en voiture avec Blanche régulièrement, on passait beaucoup de temps ensemble en voiture, et à chaque fois qu'on rentrait dans la voiture, plaf, on se mettait Les Rois du Monde, parce que ça nous donnait du punch, c'était hyper gay, on chantait ça à fond dans la voiture, on adorait ça toutes les deux. C'est des moments mère-fille, des moments de complicité, et à chaque fois qu'on écoute ça, ça me fait penser à ce temps-là. Maintenant on a un peu passé à autre chose, mais voilà, c'est vraiment un titre qu'on apprécie beaucoup.
Alors toute la famille aime Les Rois du Monde?
Oh, je sais pas. En tout cas, nous, Blanche et moi, on aime ça.
On avait qu'on avait marre à force.
Je sais pas. Ils n'étaient pas toujours là avec nous, mais c'est pas grave. Mon mari me regardait dans un drôle d'air en disant « Mais elles sont folles, ces filles. » Mais c'est pas grave. Nous rigolait, ça nous faisait plaisir. Ah, et puis lui aussi, d'ailleurs, il aime bien nous voir heureuses.
Mais bien sûr. Il y a une version que j'apprécie, un détournement, tiens, de la chanson, c'est les micro-ondes et c'est par, je veux dire, mes copains de chansons plus biflurées, en tout cas, salut les biflus. Allez écouter la version d'origine, auditrice, auditeur, allez écouter Chanson Plus. Et peut-être qu'un jour, la famille Lefebvre, pourquoi pas, sait-on jamais, faut jamais dire jamais, les rois du monde, c'est maintenant. Voilà, les rois du monde, peut-être une piste à creuser pour la famille Lefebvre. Allez, c'est un défi. Il y a d'autres musiques dites de variété qui vous plaisent, Anne ?
Ah bah, on aime beaucoup à la maison le groupe ABBA. Voilà, c'est quand même, mon mari, c'est quand même un fan invétéré. On est allé à Londres voir ABBA Voyage. C'était son cadeau d'anniversaire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur le son de ABBA et je pense que c'est universel ABBA, c'est indémodable, les enfants aiment ça, toutes les générations.
Auditrice, auditeur de RDC sur 93.4, 92.5, vous venez d'entendre un scoop. ABBA est responsable, non, c'est grâce à ABBA que la famille Lefebvre existe, rendez-vous compte.
Entre autres. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Gabriel, il est arrivé avec un CD de ABBA, il l'a mis dans ses jours, mon père a mis la musique à fond, on a écouté ABBA, Angel Eyes, c'était, je me souviens. Et c'est vrai que c'est des musiciens extraordinaires.
Dans l'interprétation et dans la conception, ouais, aussi, c'est une révolution. Hein.
Oui, voilà.
Ouais. C'est le Waterloo des Français a finalement créé une belle victoire pour eux, n'est-ce pas?
Donnez nouveau note, c'est sur R D C.
Alors Gaël Lefebvre qu'on a entendu tout à l'heure, il a un groupe qu'il aime ou un chanteur, peut-être les deux, qu'il aime particulièrement, je crois, Anne, non?
Oui, alors il aime beaucoup le groupe Queen, et particulièrement Freddie Mercury avec sa voix de contre-ténor, évidemment.
Qui se ressemble, ça semble.
Gaël a une tortue qu'il a appelée Fred Austin, en souvenir de Freddie Mercury. Enfin, c'est pour vous dire un peu le côté passionné.
Quand on aime, on ne compte pas, on recule devant rien, n'est-ce pas?
Voilà, et c'est vrai que... Mais Queen, c'est aussi particulier parce que c'est très vocal, c'est harmonique, enfin voilà, c'est pas qu'un musicien talentueux, c'est aussi c'est un groupe... Et c'est ce qui fait j'adorerais chanter du Queen en fait en famille. Je trouve que ça irait très bien.
Est-ce que vous savez qu'il y a une cantatrice célèbre qui a chanté non seulement du Queen, mais avec Freddie Mercury?
Oui, bien sûr, Montserrat Caballé.
Voilà,
oui.
Je parle de Montserrat Caballé, qui en 2012, pourquoi en 2012? Parce que c'était les JO à Barcelone, a interprété quelque chose avec Freddie Mercury. On va en entendre un extrait maintenant. Alors là encore, allez, c'est ouvert pour la famille Lefebvre, pourquoi pas? En tout cas, voici le duo improbable et pourtant. Montserrat Caballé, Freddie Mercury.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Tal vez estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation. My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming.
Alors Anne, publiquement, je lance un défi maintenant. Gaëlle Lefèvre, Blanche Lefèvre, dans quelques temps, ça serait bien qu'on entende ça.
Ah oui,
par avec vous, n'est-ce pas ? Et peut-être avec le chœur des autres membres de la famille Lefèvre. Oui, ben elle oui. un orgue Jean-François et un violon, j'ai oublié son prénom.
De Jean-Philippe.
Merci, merci, pardon à lui. Maintenant Anne, moi je voudrais que vous me fassiez un cadeau et vous ne le savez pas. Vous avez, c'est le deuxième cadeau après Oula. Le CD. Et ben, je ne vous dis rien. Simplement, on écoute. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau pour moi, bien sûr, mais pour tous les auditeurs. Et même pour notre président de la radio qui arrive maintenant dans les studios. Vous nous en parlez juste après ?
D'accord.
Allez. Voilà, nous avez connu et reconnu, j'imagine.
Ah bah oui.
Allez, dites-nous alors.
Alors c'est Exultate Jubilate de Carl Jenkins. C'est un extrait de notre CD Ad Vitam qui a 3
C'était
ans maintenant.
C'est le CD numéro 2, c'est ça ?
C'est le CD numéro 2, celui qu'on a sorti avec Universal. Donc c'est une version vocale en fait pour voix de Palladium de Carl Jenkins pour cordes, qui est très très rythmée, très rythmique, gay, que les gens adorent en fait. C'est qu'une partie, mais...
Mais quelle partie et
ouais,
quelle interprétation.
C'est superbe, on adore.
Exultate, jubilate, moi je vais essayer de traduire par exulter, réjouissez-vous. Hein, grâce à vous, Anne, c'est ce que nous faisons depuis le début de cette émission, mais pourquoi ne pas continuer ? J'aimerais bien, mais on arrive à la fin dans quelques minutes. Ceci dit, encore bravo, parce que c'est vraiment... Un très beau cadeau. J'ai entendu plein de choses de la famille Lefèvre, magnifique, et celle-ci me touche particulièrement. Alors bravo encore.
Merci.
Savez-vous, Anne, que c'est le moment de savoir si on a un gagnant et une ou une gagnante. Et on n'a qu'un seul gagnant, une seule gagnante par émission. Ah, la question du jour, la question c'était Yolanda Gigliotti est plus connue sous un nom d'artiste. Quel est le nom d'artiste, le pseudonyme, l'alias de cette chanteuse italienne puis française née en Égypte ? Je donne la réponse et Anne, vous nous direz si on a un gagnant ou une gagnante juste après, d'accord ?
D'accord.
La réponse c'est Dalida. Et évidemment, tout le monde, je pense, beaucoup de gens avaient trouvé. La première qui a appelé, Anne, c'est ?
Alors, la première qui a trouvé, c'est Sophie de Matta. Donc, félicitations.
Bravo Sophie, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué. Peut-être qu'ils gagneront une prochaine fois. En tout cas, bravo vraiment Sophie, et puis on vous attend ici quand vous le voudrez, quand vous le pourrez, pour assister de l'intérieur à une émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 92.5, et vous avez gagné aussi un CD ou un DVD que j'aurai le plaisir de vous envoyer. Tout à l'heure, Anne, vous avez parlé de Monteverdi à plusieurs reprises.
Oui.
On va finir, c'est le dernier extrait, on va finir avec lui. Les Vêpres de la Vierge, encore une musique religieuse, classique, on va dire, au sens large. Quel extrait vous allez nous faire écouter ?
Alors, on va vous faire écouter un extrait du Magnificat de Monteverdi, puisque c'est Les Vêpres se terminent toujours par un Magnificat. Et c'est le Sushipit Israël qu'on a eu. En fait, on a eu la chance d'interpréter ces Vêpres en juin dernier, mois de juin, avec la maîtrise de Notre-Dame, avec Jean-François Frémont. Et on a interprété ce Sushipit en famille, donc Blanche et moi en soprano, et les hommes qui font le continuo,
l'accompagnement,
la base.
La
teneur, quoi.
La conduite, oui.
à voix de ténor, justement,
oui.
Dessous. Et donc, c'est une grande chance, le chef de chœur. Moi, j'avais proposé qu'on fasse les solistes, parce que je l'avais déjà fait et que j'aime beaucoup. Et il a dit, bah, très bien, ce sera la famille Lefebvre qui le fera. Et donc voilà, c'est l'extrait. Extrait de Cévennes. C'est une grande chance de chanter ce genre d'œuvre. C'est absolument somptueux, magnifique, incroyable.
Donc, c'est encore un clin d'œil à l'Italie. Oui. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez chanté pour le pape.
C'est on vrai, a chanté pour le pape il y a 2 ans. On est allé au Vatican. On est allé chanter justement un cantate domino de Jenkins devant lui. On a eu l'occasion de le rencontrer. Il nous a dit qu'on chantait très bien, il paraît. Mais c'était surtout merveilleux de le rencontrer. Il nous a demandé de prier pour lui. Et quand le pape nous demande ça, ben, en fait, c'est... On est... voilà, on... tout ça a une portée différente. Et c'était un très bon moment en famille, évidemment.
Alors on finit avec
Claudio Monteverdi,
mais surtout avec une nouvelle interprétation de la famille Lefebvre. C'est maintenant ?
C'est maintenant.
Allez. Voilà, on a parlé beaucoup de vous, bien sûr, mais aussi de la famille Lefebvre au grand complet, et puis de ce que vous aimez, et puis de ce que vous avez envie d'entendre, envie de chanter. Bref, on a parlé du parcours de la famille Lefebvre, et je vous ai dit qu'il avance, qu'il progresse, non pas en qualité, mais qu'il avance, donc c'est une progression. Et puis il va de succès en succès, de réussite en réussite, il faut le dire, ici, là, ailleurs, partout, au nombre des étapes, on l'a dit tout à l'heure, il y a un troisième CD, la famille Lefebvre chante Noël, mais c'est déjà le troisième CD quand même. Donc,
c'est le troisième CD, oui.
Ouais, ça veut dire qu'il y a déjà plein de gens qui ont envie de vous entendre, de vous enregistrer, de vous réentendre. Alors pour tout ça, bravo. Bravo et merci. Merci. Merci et merci, tiens, voilà. Voilà les mots qui me viennent.
Merci de m'avoir accueilli, surtout.
Ouais, quelle chance j'ai eu un jour de découvrir Anne et sa famille et de pouvoir assister à un des concerts donnés par la famille Lefebvre. C'était à La Roche-sur-Yon, il y a quelques mois. L'église était pleine. Et puis l'envie de partage de la famille Lefebvre, je dirais son besoin de partage, s'est traduit par une belle entente avec le public. Et le public a fait preuve d'une qualité d'écoute que j'ai trouvée excellente. Vous en serez d'accord, je pense.
Oui.
Toujours au nom du partage, une chorale locale a chanté avec la famille Lefebvre pour quelques minutes. Quelle émotion, encore une fois. Pour ceux qui ont donné la musique, émotion, mais pour ceux qui ont reçu la musique, émotion aussi. Et désormais, je pourrai inscrire sur mon CV que j'ai interviewé Anne Lefebvre sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission. Donnez-nous vos notes. Là encore, quelle chance j'ai eu qu'elle ait accepté de venir de sa région parisienne, de Versailles, pour parler de la musique, pour parler de la culture, pour parler de l'art. Quelle chance nous avons eue, auditrice, auditeur. Auditrice, auditeur, nous pourrons toutes et tous dire haut et fort que nous avons croisé le chemin de la famille Lefebvre, le chemin d'Anne, de Gabriel, de Gaël, de Blanche, de Clément, d'Emmanuel, de Colombe, de Raphaël. Le chemin de 8 chanteurs de la même famille qui ont été lauréats d'un jeu télévisé national. La France a un incroyable talent. Je le disais tout à l'heure et je vais le redire. Marianne James, membre du jury de l'émission, était visiblement scotché, je vais oser dire, pour parler de jeunes à nouveau par la performance de la famille Lefebvre. Et les autres membres du jury n'étaient pas en reste. J'ose les mots de Marianne James après avoir entendu une de vos prestations, il y en a eu plusieurs, dans la quantité de l'émission. Les Lefebvre, vous nous décapsulez. Elle a même ajouté, la famille Lefebvre, vous avez quelque chose en plus. On ne choisit pas sa famille, a dit quelqu'un. On ne choisit pas sa famille, a chanté quelqu'un d'autre. Je gage, Anne, que si vous aviez pu le faire, vous n'auriez choisi personne d'autre que les vôtres.
Ah oui.
Alors Anne, Gabriel, Gaël, Blanche, Clément, Emmanuel, Colomb, Raphaël, bravo à vous, bravo à tous, merci à vous, merci à tous. La famille Lefebvre, c'est la musique au cœur, avec un H, le cœur qui chante, mais c'est aussi la fameuse musique du cœur, sans H, le cœur qui bat. La famille Lefebvre, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle, on n'a pas fini de l'entendre, ici, là, partout, ailleurs. Anne, le savez-vous, l'heure de conclure est venue, déjà. Auditrice, auditeur, comme vous sans doute, je n'ai pas vu le temps passer, quel beau parcours nous avons découvert aujourd'hui, celui de Anne, celui de la famille Lefebvre. Merci beaucoup, merci mille fois de votre venue. Je sais que les auditeurs et les auditrices ont eu du plaisir à vous entendre. Je vais oser dire à vous voir, parce que dans ce qu'on entend, on voit la musique aussi, quand vous parlez de vous et quand la famille chante, évidemment. Merci et bravo à tous ceux qui ont joué. Bravo en particulier à Sophie. Et puis, nous avons rendez-vous l'an prochain, après les fêtes, que je vous souhaite bonnes à vous tous, auditrices, auditeurs, et le 23 janvier prochain, en 2025, donc, même lieu, même heure, c'est Catherine Aupic qui sera l'invitée de Donner Nouveau Notes sur les ondes de RDC 93.4, 92.5. Autre parcours, autre histoire, mais certainement la même passion, la même envie de partage de la musique, de l'art, bref, du beau. Au revoir, Anne.
Au revoir Stéphane.
Rentrez chez vous, s'il vous plaît, avec le meilleur souvenir, je vous le souhaite, de votre passage sous les micros de RDC. Jean-Marc, au revoir, à très vite. Auditrice, auditeur, un très joyeux Noël à vous comme à celles et ceux qui vous sont chers. Je suis sûr que votre commande est envoyée ou en passe de lettre peut-être. Quant à moi, mon cadeau, je l'ai eu. Je l'ai été en double aujourd'hui. La participation d'Anne et puis le CD que je vais garder jalousement. Waouh, super. Encore merci Anne. Jean-Marc, tu peux lancer le générique, car Donner Nouveau Notes sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour aujourd'hui, c'est fini.
Bonjour.
Merci.
Donner Nouveau Notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes, une note, des notes, donnez-nous des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes. Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de donner nouveaux notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.